Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Et c'est l'heure de notre rendez-vous sur Europe 1 avec Franck Ferrand. Bonjour Franck.
Bonjour Julia, bonjour à tous. Nous sommes donc le 10 mai, on ne peut pas l'oublier. Vous savez que ce ne sont pas les commémorations qui manquent ce 10 mai. D'abord, c'est la journée commémorative de l'abolition de l'esclavage. D'habitude, on en parle davantage, évidemment. Par ailleurs, nous avons évoqué hier le 10 mai 1940. Et personnellement, je songe toujours aussi au 10 mai 1774, qui était le jour de la mort de Louis XV.
C'est bien ça. Mais le 10 mai que vous avez choisi de célébrer aujourd'hui, en harmonie d'ailleurs avec toute l'antenne d'Europe 1, c'est le 10 mai 1981.
Et oui, il y a 30 ans, jour pour jour, l'élection de François Mitterrand à la présidence de la République. On peut dire que c'était un moment capital. C'est en effet la première alternance de la Ve République. La gauche accédait aux commandes après 23 années de gouvernement à droite, dont 16 de pouvoir gaulliste. On peut dire que ce jour-là, le régime fondé par De Gaulle se trouvait légitimé d'un point de vue démocratique par l'élection de celui que le général lui-même avait jadis considéré comme son ennemi.
Et pour nous éclairer sur cette élection de 1981, vous avez invité l'un des plus proches collaborateurs de François Mitterrand.
Oui, il l'a en effet rencontré en 1966. Il a dirigé sa campagne en 1974 et il va devenir en 81 son conseiller spécial à l'Élysée. Jacques Attali est avec nous. Cela promet une discussion passionnante dans la seconde partie de l'émission.
Effectivement, mais pour commencer, nous allons donc nous replonger 30 ans en arrière.
Oui, et comme ça, nous allons céder à cette espèce de vague nostalgie que notre époque éprouve pour les années 80.
Sur Europe 1,
au cœur de l'histoire, Franck Ferrand.
L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui, c'est celle du triomphe de la volonté sur le fatalisme. Le triomphe de la ténacité sur l'abandon, de l'habileté sur la négligence. En effet, l'élection de François Mitterrand à la présidence de la République le 10 mai 1981 aurait paru 18 mois plus tôt une chose impossible ou tout au moins extrêmement difficile. Pendant ces 18 mois, le candidat socialiste, sans se laisser décourager par les sondages qui étaient mauvais et par les augures qui étaient encore plus mauvais, ce candidat a fait son chemin. Il a senti, saisi l'humeur, il a épousé les aspirations parfois secrètes d'une société qui en vérité était beaucoup moins satisfaite, beaucoup plus lasse, beaucoup plus avide d'évolution aussi qu'il n'y paraissait. La société française du début des années 80. Jacques Attali, qui donc est aujourd'hui mon invité, l'écrit au début de sa nouvelle préface de Verbatim. C'était un autre monde, écrit-il. Nous écoutions Michel Berger et Police, Teresa Berganza et Barbara. Téléphone et Michel Jonas commençaient à peine à se faire entendre. Nous n'avions ni rap, ni slam, ni DVD, ni même CD. Ni internet, ni téléphone portable, entre parenthèses, ça nous ferait des vacances si c'était encore vrai tout ça, ni sida, ajoute Jacques Attali, ni maladie d'Alzheimer. C'est vrai, c'était un autre monde. Un monde qui, en vérité, commençait à se transformer. Il y avait eu plusieurs décennies, vous savez, de pleine confiance dans le progrès technique, dans la croissance à tout va aussi, dans le bétonnage sauvage et le consumérisme effréné. Et on en revenait, timidement d'abord, à certaines valeurs plus anciennes. On s'intéressait de nouveau au patrimoine de nos campagnes. Les produits du terroir faisaient leur apparition sur de tout nouveaux marchés bio. D'innombrables familles quittaient les grands immeubles pour de petites maisons individuelles. Un grand public découvrait soudain les voyages culturels et redécouvrait certaines références qui jusque-là avaient été confisquées au moins depuis la guerre par des intellectuels archipolitisés. En ce tournant des années 80, la France change donc en profondeur et tout à coup, le 10 mai 1981, ce changement vient s'incarner dans un homme qui précisément a fait du changement son mot d'ordre, même si en vérité François Mitterrand a déjà 65 ans, qu'il a près de 40 années de vie politique derrière lui, qu'il faisait déjà carrière lors de la Seconde Guerre mondiale, qu'il a pris part à plusieurs gouvernements de la 4e République et a été naguère, je l'ai dit, l'adversaire désigné du général de Gaulle. Si vous avez aujourd'hui, on va dire, plus de 35 ans, vous vous rappelez forcément ce que vous faisiez lors de cette soirée pluvieuse du 10 mai 1981, pluvieuse à Paris en tout cas, au moment où sur les antennes réunies d'Europe 1 et d'Antenne 2, on a pu entendre ceci.
5, 4, 3, 2, 1, François Mitterrand est élu président de la République.
Estimation C. de Zion et Welbull, M. François Mitterrand est élu président de la République, 51,7%. Valéry Giscard d'Estaing, 48,3%.
Alors je dis pour ceux qui ont plus de 35 ans, mais ceux qui ont moins de 35 ans ont l'impression de l'avoir vécu parce que ça a été quand même rediffusé presque en boucle cette histoire. Cette annonce en France bien sûr, mais aussi en Europe et dans le monde entier, est accueillie comme un événement majeur, il ne faut pas s'y tromper, et pour cause, c'est la première fois depuis la fondation de la Ve République, un quart de siècle plus tôt, la première fois qu'un candidat de gauche remporte l'élection fondamentale du régime gaullien, et plus généralement, c'est la première fois qu'un homme politique de gauche se trouve investi dans l'histoire de France de l'onction du suffrage universel. C'est donc l'alternance politique, une alternance que 6 mois plus tôt, l'immense majorité des observateurs de la vie politique française jugeait encore très difficile, et une alternance qui, du même coup, fait entrer la France et son régime dans le club tellement limité des grandes démocraties modernes, où bon an mal an, vous savez que 2 grandes visions de la société, l'une plutôt conservatrice, l'autre plutôt progressiste, se succèdent régulièrement au pouvoir. Entre parenthèses, il y a eu depuis de grandes victoires de la gauche à des élections législatives et donc des périodes de gouvernement socialiste, mais François Mitterrand reste bien à ce jour, pour l'instant, le seul président socialiste, enfin le seul président de gauche de la Ve République. Donc, un événement majeur et dont on sait, au moment même où on le vit, qu'il est de portée historique. Ça, pour des gens qui ont cette sensibilité historique que nous avons, nous, l'après-midi à 13h30 sur Europe 1, c'est toujours important. Lorsque vous avez le sentiment que, quoi que vous fassiez, ce que vous êtes en train de vivre, de toute façon, sera un jour dans les manuels d'histoire. Un événement, naturellement, qui n'est pas sans susciter de terribles craintes. Les élites et la bourgeoisie française, une partie des campagnes, et au-delà de ces catégories, on va dire la moitié conservatrice du pays, tout ce monde-là redoute le collectivisme prôné par une gauche encore marxiste. On sait que des communistes vont entrer au gouvernement. Or, on est en mai 81, en pleine guerre froide, il ne faut pas l'oublier. Nombreux sont ceux qui pensent que l'armée rouge ne va pas tarder à défiler sur les Champs-Élysées et n'attend qu'une occasion d'engloutir l'Europe occidentale et ses richesses dans le bloc du pacte de Varsovie. L'autre moitié de la population, le peuple de gauche, selon l'expression de Pierre Mauroy lors de la fête de la victoire socialiste place de la Bastille, ce peuple de gauche, il attend énormément du basculement politique. On est 13 ans après mai 68, c'est notamment la promesse d'une libéralisation effective de la société. On annonce évidemment la suppression de la peine de mort, la légalisation de l'homosexualité, la reconnaissance de nouveaux droits, la création de radios libres, etc. C'est aussi évidemment un espoir économique pour toute une population défavorisée qui, ce soir-là, peut croire que son quotidien va radicalement changer. Ceux-là seront bientôt les fameux déçus du socialisme. De grandes peurs d'un côté, qui seront bientôt calmées, de grands espoirs de l'autre, qui seront vite modérés. Le moins qu'on puisse dire, c'est que le résultat de ce scrutin historique ne laisse donc personne indifférent. Une chose est certaine, dans la voiture qui le ramène de l'auberge du Vieux Morvan à Château-Chinon, au siège du PS rue de Solferino à Paris, François Mitterrand, qui reste à peu près silencieux, dit-on, pendant tout ce trajet, tandis que les réactions se succèdent à la radio, le candidat socialiste devenu président élu savoure pleinement sa victoire, une victoire qui vient de très loin et qu'il ne doit essentiellement qu'à lui-même.
Au cœur de l'histoire, revient dans un instant sur Europe 1. Jusqu'à 14h30 sur Europe 1,
plongez au cœur de l'histoire avec Franck Ferrand.
Les résultats qui me sont communiqués à l'heure où je m'exprime annonce que les Françaises et les Français ont choisi le changement que je leur proposais. À tous, je dois et l'honneur et la charge des responsabilités qui désormais m'incombent. Je ne distingue pas entre eux, ils sont notre peuple et rien d'autre. Je n'aurai pas d'autre ambition que de justifier leur confiance. Je mesure le poids de l'histoire, sa rigueur, sa grandeur. Seule la communauté nationale entière pourra répondre aux exigences du temps présent. J'agirai avec résolution pour que, dans la fidélité à mes engagements, elle trouve le chemin des réconciliations nécessaires. Nous avons tant à faire ensemble et tant à dire aussi. Des centaines de millions d'hommes sur la Terre sauront ce soir que la France est prête à leur parler le langage qu'ils ont appris à aimer d'elle.
La déclaration de François Mitterrand le soir de sa victoire, Franck.
Oui, voilà, c'était à Château-Chinon, c'était un peu avant 21h, juste avant qu'ils ne prennent donc la route pour regagner Paris, Paris en effervescence ce soir-là. Alors, cette déclaration en ce 30e anniversaire passe en boucle un peu dans tous nos médias, et tout à l'heure avec Jacques Attali, nous tenterons d'expliquer la place très grande qui est prise hein, cette année par cette commémoration. Ce que j'aimerais faire avant ça, c'est revenir sur les tout débuts d'une campagne qui, contrairement à ce qu'on pourrait croire a posteriori, s'annonce d'abord très mal pour François Mitterrand. Il faut quand même savoir que on a oublié tout ça parce que, bien entendu, 14 années de présidence de François Mitterrand sont passées sur tout ça. Mais à l'époque, il est quand même le candidat malheureux de deux élections présidentielles précédentes. Celle de 1965, où il a tout de même mis le général de Gaulle en ballottage, et celle de 1974, où il est passé très près de la victoire. Lui-même pense du reste qu'il a été dépossédé de sa victoire par des indélicatesses électorales commises outre-mer. Il est donc convaincu qu'en 1974, il aurait dû être élu. C'est vrai que ça s'est fait vraiment à 80 000 voix près. François Mitterrand reste l'artisan de l'unité du Parti Socialiste. C'est lui qui a créé le nouveau Parti Socialiste. Rappelez-vous le congrès d'Épinay en 1971, et l'on peut dire que sa stratégie, même si ce n'est pas une stratégie avouée ouvertement, bien entendu, la longue stratégie de François Mitterrand est de siphonner les voix d'un parti communiste qui, à l'époque, est extrêmement puissant, mais un parti communiste qui n'a pas l'air encore désireux de s'adapter aux évolutions de la société. Alors, il y a eu le fameux programme commun, vous vous rappelez, bien entendu, François Mitterrand, Georges Marchais, officiellement sur la même onde, je dis bien officiellement, un programme commun qui était voué à l'échec, ce qui va se passer d'ailleurs en 1977. Et depuis 1977, le premier secrétaire du Parti Socialiste n'a connu, il faut bien le dire, sur le plan des résultats politiques, que des déboires. Les législatives de 1978, qui s'annonçaient plutôt bonnes et que le pouvoir en place voyait arriver avec beaucoup d'effroi, se sont finalement retournées en faveur de Valéry Giscard d'Estaing. Ça a été un quasi-désastre pour le Parti Socialiste. Les élections européennes de 1979 ont vu gagner la liste de Simone Veil, qui distance d'ailleurs considérablement les gaullistes anti-communauté européenne. Dans les deux cas, on peut dire que le vainqueur de ces deux scrutins, ça a été le nouveau parti de Giscard d'Estaing, président de la République, ça a été l'UDF, Union pour la démocratie française. Démocratie française, c'était du reste le titre d'un livre que Giscard avait publié quelques temps auparavant. Les socialistes, eux, n'ont pas su tirer parti de la discorde, pourtant discorde patente, au sein de la majorité, entre les fidèles centristes et libéraux du président et les gaullistes, qui, depuis 1974, s'estiment tout de même dépossédés d'un pouvoir où les avait installés le général et maintenu Georges Pompidou, et qui, depuis le départ du gouvernement de Jacques Chirac en 1976, sont en quasi-opposition, même si officiellement ils sont dans la majorité. Eh bien, on ne peut pas dire que le Parti Socialiste en ait tiré profit pour le moment, si bien qu'après les européennes, Mitterrand, qui a 63 ans, aux yeux même des socialistes, apparaît pour beaucoup comme l'homme du passé. Il a été 12 fois ministre sous la 4e, il a raté le coche en 68, etc. Or, cet homme dont l'ambition est connue et qui donne le sentiment de s'accrocher, si vous voulez, cet homme trimballe quand même quelques casseroles. Certes, il brille, il manie brillamment la rhétorique. Le petit discours qu'on vient d'entendre n'est d'ailleurs pas très emblématique à cet égard, mais il faut se rappeler la finesse du discours de François Mitterrand, le choix extrêmement précis de ses termes, la mélodie quasiment d'un langage, d'une rhétorique qui ont fait long feu hein, depuis 30 ans. On ne peut pas dire aujourd'hui que ce soit la qualité la plus répandue dans le personnel politique actuel, en tout cas visiblement. Donc, si François Mitterrand manie cette rhétorique marxiste, il ne manque jamais une pique contre le capitalisme envahissant, etc. Personne n'ignore pour autant qu'il est issu d'une bourgeoisie charentaise catholique, qu'il a lui-même des sympathies maurrassiennes dans sa jeunesse, et il a fréquenté la cagoule, etc. Certes, il est médaillé de la résistance, il est croix de guerre 39-45, mais il a aussi passé 18 mois dans l'administration de Vichy, où le maréchal Pétain lui a tout de même décerné la francisque. Certes, il n'a cessé avec constance de dénoncer le coup d'État permanent du général de Gaulle, mais nombreux sont ceux qui n'ont pas oublié l'affaire, pour le moins nébuleuse, de l'attentat de l'Observatoire. Et même si, à l'époque, les confidents de sa double vie privée sont très peu nombreux, on ne sait pas finalement que le président entretient en quelque sorte une seconde famille dans l'ombre, on sait bien et on se répète partout que Mitterrand possède une grande et lourde part d'ombre. Du reste, les sondages sont clairs, ils ne sont pas bons du tout pour François Mitterrand. Début 80, il donne 52% d'opinion favorable à Giscard, après 6 ans de présidence, 51% à Michel Rocard, qui, ne l'oublions pas, est le chouchou des socialistes réformistes et au-delà d'une grande partie de l'opinion, et seulement 24% à François Mitterrand. Si vous prenez un sondage de Paris Match en janvier 80, vous voyez que face à Valéry Giscard d'Estaing, les deux candidats potentiels du Parti Socialiste échouent, mais Giscard d'Estaing ne fait que 51% si c'est Rocard qui se présente, il fait 57% si c'est Mitterrand. Et la Sofres demandant aux Français quel serait le meilleur candidat socialiste, la réponse arrive: Rocard à 55%, Mitterrand à 20% seulement, soit 35% d'écart. Et quand vous posez la question aux sympathisants même du Parti Socialiste, les réponses sont quasiment identiques, 58% pour Rocard et 29% pour Mitterrand. Vous voyez un peu le handicap, en quelque sorte, à surmonter. Et le premier candidat de gauche à se déclarer, Michel Crépeau, donc patron du MRG, du mouvement des radicaux de gauche, est lui-même favorable à Rocard. Seulement, au congrès de Metz, en avril 79, Mitterrand a réussi à sauver sa position de premier secrétaire en s'alliant à l'aile gauche du parti, le CRS de Jean-Pierre Chevènement. Et à l'époque, Pierre Mauroy, pardon, et la Fédération du Nord ont beau soutenir Rocard, ils n'ont pas réussi à déstabiliser Mitterrand. Mais on comprend que chez les mitterrandistes, et notamment chez certains jeunes loups du PS, comme Laurent Fabius, Lionel Jospin ou Paul Quilès, l'obsession soit de savonner la planche à Michel Rocard, qui devient très vite, disons-le, leur bête noire. En un mot, Mitterrand a contre lui énormément de sympathisants socialistes, il a contre lui l'opinion, et c'est pourtant lui qui va être le candidat du Parti Socialiste à l'élection présidentielle, et vous allez le voir, peu à peu, regrimper la pente, regagner des voix, et finir par gagner cette élection.
Au cœur de l'histoire, revient dans un instant sur Europe 1. Franck Ferrand sur Europe 1. Au cœur de l'histoire.
Mitterrand à la une, alors c'est le cas toute la journée sur Europe 1, mais c'est aussi le titre d'un livre qui vient de paraître, un livre de Franz-Olivier Gisbert et Michel Revol, c'est un partenariat Europe 1 et Eubek, et c'est un ouvrage, Franck, qui réunit plus de 151 de journaux, toutes marquées par la vie de François Mitterrand.
Oui, c'est un grand album, et ce qui est intéressant, c'est qu'on remonte assez loin en arrière, comme j'ai essayé de le faire, aujourd'hui. Moi, aujourd'hui. Alors le problème, c'est que je me rends compte qu'il est 13h54 et 15 secondes, et qu'on va même pas avoir le temps d'aller jusqu'à l'élection. Mais enfin, tant pis, avançons néanmoins. Et puis dans la deuxième partie de cette émission avec Jacques Attali, nous reviendrons sur un certain nombre des très grands épisodes qu'il a vécu lui, évidemment, aux toutes premières loges. Ça, c'est vraiment passionnant et j'ai hâte de lui céder la parole en quelque sorte. Alors, les grands atouts de François Mitterrand néanmoins, c'est évidemment l'appareil du PS. Puisqu'il a su rester premier secrétaire, il va l'utiliser ce parti, croyez-moi. Et le deuxième atout est involontaire en quelque sorte, mais c'est l'erreur qu'a commise Michel Rocard au congrès de Metz, puisqu'il a dit publiquement, devant tous les militants, il a dit à François Mitterrand: si vous êtes candidat, cher François Mitterrand, évidemment, je vous suivrai, etc. Autrement dit, la candidature de Michel Rocard est complètement subordonnée à celle de François Mitterrand. Personnellement, j'ajouterais volontiers deux autres atouts, peut-être plus subjectifs, mais qui vont essentiellement faire la différence. D'abord, François Mitterrand, à l'évidence, dispose d'une stature d'homme d'État, qui sera énormément confortée pendant son passage à l'Élysée, mais qui existe déjà. Il a notamment cette immense culture, il a l'expérience, d'une très longue expérience de la vie politique, il a ce caractère également, il n'est pas facile, on n'arrive d'ailleurs jamais à le cerner réellement, et puis il a cette espèce de confiance démesurée en lui, en son propre destin, comme dit Jacques Attali, et il avait les deux qualités qui font un président de la République, il aimait passionnément la France et il croyait passionnément à son destin, c'est véritablement ça. Et puis, L'autre atout, peut-être plus subtil mais très important, c'est que François Mitterrand a toujours adoré s'entourer de jeunes, qu'il nourrit une curiosité sincère pour toutes les évolutions de la société, et il va se forger lors des... vous savez, il a passé quand même plusieurs petites traversées du désert. Il se forge une image, du reste légitime, d'homme de terroir. C'est l'homme qui a de la boue à ses souliers, vous savez, qui va régulièrement dans la Nièvre ou en Charente, qui adore, ou dans les Landes, qui adore parler des arbres, qui se promène dans la nature, qu'on le voit en pèlerinage tous les ans à Solutré, qui caresse des ânes, on le voit dans l'émission 30 millions d'amis, c'est un peu le berger de Latché, si je puis dire. Cette image sereine, sage, rurale, cette image authentique qui correspond admirablement à ce qu'attend à l'époque une majorité de Français. Y a un homme qui a très bien compris ça, c'est le publicitaire Jacques Séguéla, évidemment, qui va inventer ce slogan idéal et parfait, la force tranquille. Ça ne se décide pas, vous savez, ce genre de coïncidence, cette rencontre élective entre un homme et un peuple à un moment précis, mais ça peut se cultiver avec une sorte de grâce que François Mitterrand va développer au fil de sa campagne, alors même que simultanément, le président sortant Valéry Giscard d'Estaing connaît lui d'une façon assez inexplicable à partir de la fin de 1979, on a envie de dire qu'il n'a plus la main, et il connaît une désaffection progressive dans l'opinion. Alors voilà, nous ne sommes pas au bout de notre affaire, nous ne parlerons pas de l'élection avant la deuxième partie de l'émission. Ce que je veux seulement dire, parce que j'aurais peut-être pas le temps de le faire après, c'est que le 11 mai 81, la France s'est réveillée avec un nouveau président qui avait ce jour-là un autre titre dans l'actualité, mais qui a été complètement submergé par l'élection de François Mitterrand. L'autre titre, c'était la mort de Bob Marley, en fait.
Le père du reggae sur Europe 1, Bob Marley avec One Love. Restez avec nous, on retrouve Franck Ferrand et son invité, on célèbre François Mitterrand. Et l'invité du jour, c'est Jacques Attali.
Au cœur de l'histoire, revient dans un instant sur Europe 1.
Les 30 ans du 10 mai 1981.
François Mitterrand est élu président de la République.
L'événement est sur Europe 1 et Europe 1.fr. Sur Europe 1,
au cœur de l'histoire, Franck Ferrand.
C'est une chance que de pouvoir évoquer la conquête du pouvoir par François Mitterrand en compagnie d'un homme qui a assisté lui-même de très près à cette conquête, Jacques Attali. Merci beaucoup Jacques Attali d'avoir accepté mon invitation.
Avec plaisir.
Vous connaissiez François Mitterrand depuis 1966, donc juste après sa défaite, mais qui était une défaite honorable à la première élection présidentielle au suffrage universel, en 65, et vous avez dirigé sa campagne de 1974.
Oui, je l'ai rencontré en 66, j'avais 22 ans, dans une boîte de nuit, et enfin restaurant qui était boîte de nuit. J'ai été lui dire, je voudrais travailler avec vous. J'étais évidemment jeune étudiant. Il m'a dit oui, on s'est vu un peu après, mais il m'a proposé une circonscription électorale, ce qui n'était pas tout à fait ma tasse de thé. Donc on s'est revu un peu plus tard. Le hasard a fait que j'ai à la fois travaillé pour Jean-Pierre Chevènement en étant moi-même professeur et étudiant dans la préparation de l'évolution de la gauche. Et puis j'ai été nommé, quand je faisais mon stage de l'ENA, sous-préfet dans la Nièvre, où je suis arrivé le 1er mai 1968, face à François Mitterrand, donc président du Conseil Général. Et là, j'ai découvert un homme d'État, évidemment, dans cette période. J'ai beaucoup
Il vous apprécié. A d'emblée impressionné. Par
beaucoup
le...
impressionné, oui. Beaucoup. Et puis, j'ai recommencé à travailler avec lui en octobre 1973. Oui. Il m'avait demandé de venir pour préparer une émission de télévision. Ce jour-là, il m'avait dit « j'ai 5 minutes pour vous ». On est resté 2 heures et depuis ce jour-là, on s'est vus tous les jours pendant 20 ans. Et puis quand Georges Pompidou est mort, il a annulé le rendez-vous qu'il avait avec moi le lendemain, on s'est vu le surlendemain, et je suis rentré dans une pièce où il y avait tous les dirigeants socialistes que je ne connaissais pas pour la plupart, et j'ai entendu François Mitterrand dire « j'ai confié la direction de la propagande, de la publicité à Claude Perdriel, la direction des finances à André Rousselet, et le responsable de ma campagne sera Jacques Attali ». Il ne m'avait pas demandé mon avis. J'avais 30 ans.
Vous l'avez découvert, là.
J'ai découvert ça, ce qui, à mon âge, et n'étant pas membre du Parti Socialiste, était un coup de tonnerre. Et évidemment,
c'était une grande aventure dont vous conservez une certaine nostalgie.
Nostalgie, non, j'ai aucune nostalgie. Je suis président de Planète Finance. L'avenir m'occupe beaucoup plus que le passé. Mais aujourd'hui, vous m'avez demandé de parler du passé. J'en parle avec grand plaisir parce que j'ai beaucoup de fierté de ce que nous avons fait ensemble. Mais c'est vrai que cette campagne de 1974, totalement improvisée, où François Mitterrand m'a dit ce jour-là « je perdrai de 80 000 voix », car Georges Pompidou est mort 6 mois trop tôt par rapport aux tendances d'évolution du pays, qui s'est révélé vrai.
C'est ce qui s'est passé.
Exactement.
Oui. D'ailleurs, il y a eu certaines incertitudes sur le résultat même de cette élection.
Nous étions, et je reste convaincu, et François Mitterrand l'était aussi, que les votes ont été truqués outre-mer. Nous en avions eu des confirmations en direct pendant que ça se passait, et que François Mitterrand, en réalité, avait été élu.
Donc, il a eu l'impression, lui, que sa victoire lui avait été volée,
en quelque sorte. Tout à fait convaincu que sa victoire était volée, mais qu'il n'aurait jamais pu avoir les moyens de le prouver.
Ce qui veut dire qu'en 81, c'était un peu une revanche pour lui. Même candidat en face, le président sortant.
C'était une revanche et c'était surtout aussi une répétition, parce que c'était exactement la même chose. J'étais aussi directeur de la partie programmatique de sa campagne. Les mêmes collaborateurs étaient autour de lui, avec un ou deux nouveaux. Il y avait un jeune homme que j'avais découvert qui était venu nous rejoindre, qui était Laurent Fabius. C'est qu'il a fait une grande carrière avec lui et depuis, et quelques rares nouveaux, mais c'était la même campagne, c'était la même façon d'organiser le programme, c'était la même réflexion. Nous avions évidemment 7 ans d'opposition, une campagne législative perdue, beaucoup de débats télévisés entre-temps.
Des élections législatives perdues, des élections européennes pas très brillantes, oui. Enfin, ça faisait un certain nombre d'échecs, alors qu'en face, au sein même du Parti Socialiste, Michel Rocard était en train de monter et que les sondages le donnaient très favori.
Oui, les sondages le donnaient favori et Michel Rocard, qui est un ami, je dis ça pour la suite, c'est moi qui l'ai présenté à François Mitterrand, c'est moi qui l'ai fait rentrer dans la campagne de 1974. Je l'ai pris comme mon adjoint dans la campagne de 1974. Il a d'ailleurs toujours reconnu que c'était grâce à moi qu'il avait rejoint la famille de la gauche qui allait gouverner. Mais Michel Rocard s'est opposé à François Mitterrand et Michel Rocard était le candidat du Nouvel Observateur et de tous ceux qui, au fond, étaient ravis que la droite soit au pouvoir puisque ça leur laissait un magistère moral d'incarner l'opposition. Donc l'hypothèse d'une victoire de François Mitterrand était une catastrophe pour cette gauche-là.
Alors, François Mitterrand s'appuyait, lui, sur le CRS, c'est-à-dire sur la tendance la plus... Enfin, avait bénéficié, disons, au congrès de Metz du ralliement du CRS, la tendance la plus à gauche du Parti Socialiste. On dit toujours que dans la préparation, dans la perspective d'une élection présidentielle, il vaut mieux rassembler au centre. Ça n'était pas sa stratégie initiale.
Non. En réalité, François Mitterrand n'a jamais bougé de ligne. Il est élu en 73 comme patron du Parti Socialiste. Il le reste. Et d'une certaine façon, c'était qui même me suive. Il avait d'ailleurs laissé planer l'hypothèse qu'il ne se représenterait pas, mais moi je n'y ai jamais cru. Je vais vous raconter une petite anecdote qui, pour moi, a marqué François Mitterrand, avant de revenir à la campagne elle-même. En décembre 74, il me demande de l'accompagner à une réunion de l'Internationale Socialiste à Londres. C'était d'ailleurs la première fois que j'avais rentré dans Downing Street, et c'était une réunion historique, puisque c'était la réunion de savoir si les dirigeants socialistes allaient appuyer l'entrée des communistes dans le gouvernement portugais. Il y avait dans cette réunion à Downing Street, imaginez-vous, Wilson, Premier ministre, bien Willy Brandt, Olaf Palme, Mario Soares, Felipe González.
Toutes les grandes figures de la gauche européenne.
Étaient dans cette pièce. Et moi j'étais avec François Mitterrand, mais je raconte pas ça pour ça. Je raconte ça parce que dans l'avion, à l'aller, François Mitterrand me dit « Vous savez, j'en ai assez, je vais me retirer de la vie politique ». Je dis « Mais pourquoi vous dites ça ? Mais vous êtes très jeune. »« Non, mais vous ne vous rendez pas compte. Je ne suis plus l'âge et puis les élections sont très loin. » Je dis « Enfin, il y a les législatives en 78. On va les gagner. »« Oh, vous plaisantez, 78, on va perdre, puis je serai trop vieux. » Puis après, il y a les présidentielles de 80. « Mais vous plaisantez, genre en 65 ans, on n'allera jamais à un président de 65 ans. »« Mais si, je continue. » Il me dit « Mais qui vous voyez pour me succéder ?» Je dis « Mais enfin, c'est vous. » Et il avait tellement insisté pour qui vous voyez me succéder qu'au moment d'atterrir, De Guerre lasse, je lui dis, écoutez, quand vous partirez le plus tard possible, il y a quelqu'un que je vous ai fait présenter, que j'ai fait entrer avec vous dans la campagne, Michel Rocard, qui sera peut-être pas mal. Et à ce moment-là, il se retourne vers moi et il me dit, je me demande combien de successeurs je vais user sous moi. et là, j'ai compris qu'il serait là pour longtemps.
Au cœur de l'histoire, revient dans un instant sur Europe 1.
Jusqu'à 14h30 sur Europe 1.
Plongé au cœur de l'histoire. Avec Franck Ferrand.
Nous sommes en compagnie de Jacques Attali, qui a été l'un des artisans de la victoire de François Mitterrand en 1981, en tout cas un très grand témoin. Il y a un autre personnage public, Jacques Attali, que vous avez bien connu, et qui a joué un rôle dans la campagne, en tout cas dans la pré-campagne, c'est Coluche. On va entendre Coluche au micro d'Europe 1.
Moi je suis là pour faire marrer. Il se trouve que je fais peur, surtout, aux hommes politiques. J'en suis ravi, parce que, évidemment, se met la merde, ça m'ennuie jamais. Et puis, je crois que c'est utile. Enfin, je sais pas, il y a une fonction, quoi, si vous voulez, dans l'État, qui est celui qui est contre l'État. On a élu un mec, président de la République, qui avait déjà été 7 ans ministre des Finances. Si les Belges avaient fait ça, on serait foutu de leur gueule pendant des années. Alors, moi, j'en ai marre de passer pour un con. J'espère qu'on va pas le réélire, quoi, c'est tout. En plus, un mec qui a eu le pouvoir pendant 7 ans, c'est celui qui est le plus à même de savoir comment s'en servir pour le magouiller et le matraquer avec la police et machin, il a tout en main. Donc si un nouveau arrive, à mon avis, il va être plus sympa. Déjà, il va être content d'arriver, déjà, ça va y faire une surprise. Le temps qu'il s'en remette, ça va nous faire plaisir. Et puis le temps qu'il apprenne à servir des rouages et à nous refaire chier comme les autres, il peut se passer un moment et ça peut être bon, c'est tout. L'essence a augmenté 2 fois le mois dernier en France, 1 fois de 14 centimes, 1 fois de 15 centimes, elle a baissé 2 fois en Belgique. Moi, je demande l'asile politique à la Belgique s'il est réélu Giscard d'Estaing.
On voit que Coluche n'était certes pas favorable au candidat sortant, mais est-ce qu'il n'était pas également un danger pour François Mitterrand lui-même ?
Alors là, il y a eu une mythologie extraordinaire qui s'est introduite. L'idée que les socialistes avaient peur de Michel Coluche et que moi, j'avais été envoyé pour négocier avec Michel Coluche.
On lit ça partout.
Mais
surtout en ce moment.
C'est malheureusement ou heureusement totalement faux. La réalité, dont plusieurs peuvent témoigner, c'est que Michel Berger, qui est malheureusement mort, et sa compagne, sa femme France Gall, qui peut en témoigner, m'avait invité, en novembre 80, à dîner avec Michel Coluche. Et c'est un dîner chez France et Michel, dont je n'avais d'ailleurs pas parlé à François Mitterrand, et un samedi soir, qui s'est terminé à 2h du matin. On s'est d'abord insulté réciproquement, il m'a traité de menteur, j'ai traité de menteur, et puis ça a été une sorte de coup de foudre intellectuel. Et à la fin du dîner, il m'a dit « il faut que je te voie d'urgence ». Je lui ai dit « écoute, puisqu'on s'en a assez tutoyé tout de suite, viens demain chez moi prendre un café ». Et il est venu le dimanche après-midi chez moi à Paris, et puis il m'a dit « fais-moi un café », on a été dans la cuisine, et là il m'a dit « tu sais, tout le monde dit que je vais être candidat, mais je ne serai pas candidat, parce que j'ai 0 signature, je ne vais pas en chercher, et ce que je veux, c'est que Giscard soit battu et je vous aiderai ». Je lui dis, écoute, on va travailler ensemble, je serais ravi de cela. Il me dit, tu le gardes pour toi, tu le dis à François Mitterrand et on en reste là. Je ferai ce qu'il vous sera utile que je fasse. J'ai confiance en vous. J'ai dit ça à François Mitterrand le lendemain, qui est resté extrêmement silencieux et qui, avec moi, a beaucoup ri quand quelques socialistes ont approché Coluche, quand plusieurs ont prétendu que Coluche était contre François Mitterrand, quand le Nouvel Obs a fait sa couverture sur Coluche président, quand Mitterrand a présenté la sienne, alors que Coluche, en fait, dans ses meetings, dans ses débats, dans ses différentes déclarations, utilisait beaucoup de choses que je lui disais.
Eh oui. Donc en fait, vous serviez bien de courroie de transmission, mais dans l'autre sens.
Dans l'autre sens. Et Michel est devenu évidemment mon meilleur ami. À ce moment-là, il l'est resté. Il m'a écrit une lettre merveilleuse le 10 mai au soir, que j'ai toujours avec moi, qui se terminait par « j'ai confiance en vous ». Il a été un magnifique compagnon et un homme d'une intelligence et d'un cœur immense.
Vous savez qu'il a beaucoup œuvré dans ce même studio où nous sommes précisément. Vous parlez de ce dîner dont François Mitterrand n'était pas au courant. Il y a eu énormément de dîners, de déjeuners dans les 6 mois qui ont précédé l'élection. On peut dire que François Mitterrand est devenu le candidat de l'intelligentsia, en tout cas des intellectuels, incontestablement.
Non. Les intellectuels, la plupart des intellectuels dits de gauche, rêvaient de la défaite de François Mitterrand. Parce qu'il détestait l'idée que des communistes puissent être associés au pouvoir. Et ensuite, pour un intellectuel de gauche, il n'y a rien de pire que la gauche au pouvoir. Puisque ça signifie que leur magistère moral est battu en brèche.
C'est toute une boutique qui disparaît.
Voilà, c'est leur fond de commerce. C'est pour ça que le Nouvel Observateur était si hostile à François Mitterrand. Et d'ailleurs, Jean Daniel ou d'autres le reconnaissent très honnêtement maintenant. Ils étaient tout à fait désespérés. Le 10 mai était un soir de deuil au Nouvel Observateur.
Je disais ça en pensant à la mort de Roland Barthes, qui était au sortir d'un déjeuner chez François Mitterrand.
Vous voulez dire que François Mitterrand n'a pas d'alibi pour cette mort?
C'est une façon de voir les choses, effectivement. Et au-delà des intellectuels de gauche, les communistes eux-mêmes redoutaient finalement la victoire de François Mitterrand et l'Union soviétique derrière eux.
Évidemment, les communistes avaient compris qu'ils n'avaient plus le choix. Soit ils s'alliaient à François Mitterrand, ils avaient le risque de disparaître, ce qui est arrivé, soit ils ne s'alliaient pas à François Mitterrand et ils étaient restés dans l'histoire comme ceux qui avaient fait réélire Giscard d'Estaing. Mais il faut bien voir, vous avez raison de dire qu'un an avant, tout semble en place pour que François Mitterrand ne soit pas candidat. D'abord, il réunissait tous ses amis, nous étions peu nombreux à l'époque, tous les jeudis matins, un petit déjeuner qui durait 2h30, rue de Bièvre. Il passait beaucoup de temps, un peu comme Volpone, à lui dire « je ne serai pas candidat, je ne serai pas candidat ». Et nous, on était en train de le rassurer, lui dire que qu'on était avec lui, quoi qu'il arrive. Et naturellement, il a tout fait pour maintenir ce suspense jusqu'à ce que Michel Rocard, merveilleux ami et compagnon, montre qu'il n'était pas l'homme qui voulait incarner l'identité de la France à cette époque.
Quel était le regard du, j'allais dire du président, en tout cas du candidat Mitterrand, sur le président sortant, Valéry Giscard d'Estaing ?
Il était très partagé. Il détestait ce qu'il incarnait, mais en même temps, il avait une certaine admiration pour l'homme. D'ailleurs, je me souviens très bien que le jour du débat de télévisé, à la différence du débat de 1974, où nous étions partis à la campagne pour travailler chez André Rousselet, où il avait fait l'erreur de faire une sieste qui lui avait été
dont il ne s'était jamais bien réveillé.
Voilà. Ce jour du débat du 10 mai 80, enfin du 7 ou 8 mai, 6 mai 80, une sorte de redite pour lui et moi, nous étions rue de Bièvre, cette fois-ci on était restés, et il me dit on sort. Et donc vers 5 heures du soir, nous sortons tous les deux, on va se promener le long de la Seine. Et il me dit, vous savez, je ne sais pas si ce débat va bien se passer, parce que au fond, Giscard est un type très bien, vous savez, c'est un excellent président. Et puis il me fait la liste de tout ce qu'il a fait. Je dis, attendez, mais dans 2 heures, il va falloir que vous disiez exactement le contraire. Non, mais écoutez, dites-moi, qu'est-ce qu'on peut lui reprocher ? Et en fait, je sentais bien que ce qu'il avait envie, c'est que je lui dise du mal, ce que j'ai fait, évidemment, du président Giscard d'Estaing, même peut-être au-delà de ce que j'en pensais, parce que le président Giscard d'Estaing a fait aussi des choses remarquables, de façon à lui remonter l'énergie nécessaire.
On vous retrouve juste après la publicité, Jacques Attali.
Au cœur de l'histoire revient dans un instant sur Europe 1. Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Regarde sous ce ciel déchiré, tout s'est ensoleillé, c'est indéfinissable. Un homme, une rose à la main, a ouvert le chemin. Les enfants, soleil au fond des yeux, le suivent de par deux, le cœur en amoureux.
Barbara, regarde. C'est toute une époque et toute une ambiance qui ressurgit à travers cette chanson de Barbara Jacques Attali.
Oui, d'abord parce que Barbara était une grande amie. Vous avez évoqué deux de mes amis qui sont disparus, Michel Coluche et Barbara. Et aussi parce qu'en effet, elle dit très bien dans cette chanson ce changement qu'on a du mal à comprendre. Ben, il faut se souvenir que même cette maison, en 81, était aux ordres du pouvoir politique. Qu'il y avait deux radios d'État et deux autres radios d'État qui étaient RTL et Europe 1, qui à l'époque étaient totalement aux ordres du pouvoir. Qu'il y avait la peine de mort, l'homosexualité était un crime, le pays était extrêmement centralisé, c'était vraiment une chape de plomb qui pesait sur le pays et qui a sauté avec l'élection de François Mitterrand, indépendamment des lois sociales et toute une série de choses d'ailleurs sur laquelle aucun pouvoir politique, ni de gauche ni de droite, n'a jamais pensé à remettre en cause. Donc il y a vraiment un changement profond qui s'est produit, une sorte de libération des énergies.
Ce qui explique peut-être que 30 ans plus tard, on pense encore avec tant d'insistance à ce 10 mai 1981. On a l'impression qu'il y a une sorte d'omniprésence de cette commémoration.
Oui,
cette année.
D'ailleurs, ça me choque un peu parce que, même si je suis très heureux de ce souvenir et de cette gloire d'une époque à laquelle j'étais si intensément attaché, qui est une part importante de ma vie, en tout cas de ce qui est derrière moi, pas de ce qui est devant. Aujourd'hui, c'est quand même un jour où les femmes et les hommes sont massacrés en Syrie. C'est un jour où il y a beaucoup de chômeurs dans la société française. C'est un jour où Fukushima reste extraordinairement dangereux. C'est un jour où la Grèce est au bord du chaos. C'est un jour où il y a énormément de catastrophes et de bonnes nouvelles aussi à l'échelle de la planète qui mériteraient de faire les titres. Et je m'étonne un peu que
le grand prospectiviste, donnez-nous deux ou trois bonnes nouvelles quand même.
Mais
pour
il y en a beaucoup.
Pour compenser tout ce que vous venez d'annoncer.
Par exemple, le GIEC a annoncé hier que nous avons les moyens d'installer une énergie renouvelable suffisante pour remplacer les énergies fossiles. Ça mériterait les très grands titres. Et je pourrais vous en donner plein. Il y a beaucoup, beaucoup de très bonnes nouvelles en ce moment. D'autres nouvelles que des commémorations.
Et donc, oui, effectivement, on se focaliser un peu sur
Un
passé récent, du reste.
Oui, je crois qu'il y a deux raisons. D'abord, il y a un désir de gauche, clairement, dans la société française. Puis aussi, un désir de France. un désir de France au sens où on réalise bien consciemment que le président de la République n'a plus aucun pouvoir, enfin beaucoup, beaucoup moins de pouvoir.
Mais les régions et l'Europe ont pris
les
le
régions,
relais.
L'Europe, la disparition de l'Union soviétique, qui fait que le pouvoir thaumaturgique du président qui appuie sur le bouton nucléaire n'existe plus.
Et qui avait le droit de grâce du temps
et
de
le
la...
le droit de grâce, toute la dimension
Nord,
thaumaturgique a disparu. Et puis, heureusement, et puis le fait qu'on a privatisé la totalité du secteur public fait que l'autre pouvoir de vie et de mort, qui était le pouvoir de nommer, a pratiquement disparu, à l'exception des préfets et des ambassadeurs.
Le fait qu'on parle beaucoup de ce 10 mai donne la parole à énormément de témoins de l'époque, donc c'est toute une mémoire qui ressurgit, mémoire parfois qu'il faut parfois prendre quand même avec des pincettes.
Oui, moi-même, je m'en suis rendu compte en écrivant verbatim, puisque j'ai repris mes notes 10 ans plus tard, et je me suis rendu compte que mes notes écrites avaient souvent peu de rapport, et souvent étaient contradictoires avec mon souvenir oral. Et naturellement, j'ai gardé dans Verbatim ce qui était écrit.
Verbatim, je précise juste que Verbatim vient d'être réédité dans la collection Bouquins chez Robert Laffont.
C'est mon journal pendant 10 ans, écrit à la demande de François Mitterrand, qui raconte la vie de l'exercice.
On est vraiment dans l'intimité même du pouvoir.
L'intimité du pouvoir. Et là, je constate des choses plus ou moins honnêtes. Par exemple, des gens qui racontent des événements qui me sont arrivés et que je leur ai racontés en privé, qui les racontent dans des livres, ou à la radio, ou à la télévision, comme si c'était eux que c'était arrivé.
Je sens réapproprié vos histoires, en fait.
Mais c'est pas grave, je laisse faire avec beaucoup de curiosité et d'amusement. Et puis d'autres qui racontent des événements comme si évidemment ils s'étaient passés, mais sur lesquels on a 15 versions contradictoires. Par exemple, la question de savoir qui a annoncé à François Mitterrand son élection, j'entends des versions qui sont très différentes de celles dont je me souviens. Pour moi, nous étions tous dans une pièce.
On a rue de Solferino, vous étiez là.
On a entendu dans ce micro collectif l'annonce par les instituts de sondage, confirmant d'ailleurs ce que nous savions depuis 3 semaines, que François Mitterrand était élu. Nous avons appelé François Mitterrand, nous l'avons eu au téléphone et on lui a dit.
Morvan,
voilà.
Donc,
j'ai entendu des versions complètement différentes. Ouais. Sûrement les auteurs de ces versions sont honnêtes. Mais...
Oui, on peut être de bonne foi, mais avoir transformé un peu ses souvenirs. Jacques Attali, je vais vous faire plaisir parce que nous allons finir sur une note futuriste. Demain, qui gouvernera le monde? C'est votre nouvel ouvrage chez Fayard. C'est toute la question justement de la gouvernance mondiale que vous posez à travers les siècles, du reste, parce que vous faites beaucoup d'histoire dans ce livre aussi. Merci infiniment d'avoir éclairé notre lanterne sur ce moment important du 10 mai 1981. Et puis, comme nous n'avons pas pu entrer dans tous les détours de l'élection, je vous signale un très beau livre paru chez Vendémiaire de Pascal Cauchy, L'élection d'un notable, les coulisses de mai 1981. C'est dans la collection Chronique et c'est vraiment passionnant à lire. Passionnant comme l'est notre chère Faustine Bollard. Bonjour.
Merci
Faustine.
Merci Franck, bonjour à tous. Jusqu'à 15h30 aujourd'hui au programme, on va parler de ces hommes et de ces femmes qui ont toujours peur de leurs parents alors qu'ils sont des adultes responsables. Comment définir cette relation complexe. Venez nous dire, vous, à quelle occasion vous mentez à vos parents à propos de votre licenciement que vous n'avez pas osé avouer, de votre divorce que vous n'assumez pas, peut-être de votre train de vie qui n'est pas aussi luxueux que vous le montrez, à moins que vous n'ayez peur juste de leur présenter votre partenaire ou conjoint. En tout cas, vous avez 40 ans et toujours peur de vos parents. 39 21 pour nous joindre en direct sur Europe 1 ou faustine.europe1.fr pour nous joindre, Franck.
Merci beaucoup Faustine. Nous nous disons, nous, à demain, Julien.
Avec grand plaisir, à demain, Franck.